France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Donald Trump persiste et signe. Il annonce qu'il gagnera la présidentielle aux États-Unis, sauf si on lui vole l'élection. C'était cette nuit lors d'une allocution en fin de journée heure de Washington. Le président sortant parle de votes illégaux, renvoyant à de supposées fraudes, mais sans aucune preuve. Un peu plus tôt dans la soirée, Joe Biden avait également pris la parole. Le candidat démocrate dit lui qu'il n'a aucun doute sur sa victoire et lance un appel au calme et à la patience. Les dépouillements prennent du temps. Les scores des deux hommes se rapprochent, notamment en Géorgie et en Arizona. En Pennsylvanie également, les courbes là pourraient s'inverser au profit de Joe Biden, ce qui lui donnerait la victoire. Nous suivons ça évidemment toute la matinée sur France Culture. L'Europe, épicentre de l'épidémie de Covid-19 ces dernières semaines. La France est le pays européen le plus touché en nombre de cas positifs confirmés. 1 600 000 au total, selon le directeur général de la Santé. À Paris, certains commerces devront fermer dès 22h ce soir. Et c'est pour tenter de calmer la colère d'une partie des lycéens et du monde enseignant en plein rebond de cette épidémie que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, annonce le renforcement du protocole sanitaire dans les lycées. Des cours à distance seront de nouveau possibles en alternance avec du présentiel. Les épreuves communes du baccalauréat cette année sont annulées au profit de contrôle continu. Le SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, maintient une journée de grève prévue mardi prochain. Le procès de l'attentat avorté contre une église de Villejuif et un verdict 5 ans plus tard. Sidar Medglam est condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Paris. Cet étudiant algérien a été jugé pour assassinat d'une jeune femme, Aurélie Châtelain, c'était en avril 2015, ainsi donc qu'un projet d'attentat. Et puis notons par ailleurs que Gérald Darmanin est aujourd'hui à Tunis pour y parler lutte contre le terrorisme. Hier, Emmanuel Macron était lui au Pertus à la frontière franco-espagnole pour un renforcement de la coopération à l'échelle européenne. Reportage dans le journal de 6h30 dans une demi-heure.
Le dimanche à 11h sur France Culture, prendre le temps du recul et de l'analyse.
L'esprit public, Émilie Aubry.
Portez avec nous un autre regard sur l'actualité politique et géopolitique.
Ce dimanche, Émilie Aubry reviendra avec ses invités sur l'élection présidentielle aux États-Unis et les diverses positions européennes face au terrorisme et à la pandémie. L'esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Move. Demain à 18h, Hip Hop Symphonique saison 5 sur Move. Sous la direction artistique d'Issam Krimi, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dylan Corley et The Ice Cream, accompagneront Loose and the Yakuza, Maes, Meryl, Passy et Soul King pour des versions inédites. Le Crédit Mutuel donne le la à Hip Hop Symphonique 5, un événement Move en partenariat avec l'Adami, à vivre en direct demain à 18h sur Move et en vidéo sur YouTube et sur move.fr. Move, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Dans le monde vivant, Bruno David se penche ce matin sur l'autre nous-mêmes.
Trois petits singes. Le premier se cache les yeux, le second se couvre la bouche et le troisième se bouche les oreilles. Ces figures asiatiques, très populaires en Chine et au Japon, représentent la sagesse. Elle signifie le refus de voir, entendre ou dire le mal. Suivre leurs préceptes attirerait par conséquent le bien. Mais savez-vous que ces statuettes représentent des cathariniens? Autrement dit, des singes d'Afrique et d'Eurasie, dont les narines sont orientées vers le bas et séparées par une cloison. À ce titre, et au risque de perturber notre ego d'homo sapiens, nous sommes des cathariniens, tout comme les macaques, babouins, gorilles ou gibbons. Le groupe frère des cathariniens rassemble les platyriniens qui ont peuplé le Nouveau Monde. Ils ont aussi alimenté le capitaine Haddock en juron puisqu'ils comptent parmi leurs membres les ouistitis et les sapajous. Leurs narines sont latérales. Au total, il existe 285 espèces de singes. Cata comme platyrinien, ils ont tous un seul os frontal et les deux os dentaires de la mandibule fusionnés en un seul, ce qui fait que leur mâchoire est faite d'un seul os de bout en bout. Comme nous présentons ces caractéristiques, pour un zoologiste, nous sommes des singes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des traits propres qui font de nous des humains. Mais il n'y a pas de honte à cela, loin de là. En effet, le singe bénéficie d'une excellente image dans de nombreuses cultures. Dans le panthéon égyptien, le singe est le scribe savant qui possède la connaissance. Il est le magicien suprême, artiste et connaisseur des hiéroglyphes les plus mystérieux. Il est aussi Api, divinité protectrice des morts. En Chine, le roi singe est un personnage doué de parole, de conscience, de force, de rapidité et de pouvoir magique. En Inde et en Indonésie, le dieu singe s'appelle Hanuman et il voue une fidélité totale à Rama, roi réel ou mythique qui aurait régné sur l'Inde au XXe siècle avant notre ère. Clin d'œil scientifique, un fossile de singe devenu célèbre, trouvé en 1879 en Inde et daté de 12 millions d'années, a été baptisé Ramapithèque. Chez les Falis du Cameroun, le singe noir est un magicien rusé, maître des savoir-faire. Chez les Bororo du Brésil, le singe est le héros civilisateur, inventeur de la technique et encore magicien. À l'opposé, les Occidentaux ne voient que ses turpitudes et son côté chapardeur. Au Moyen Âge, le singe est le symbole du mal et du péché. Figure diabolique et malicieuse, il est à la fois lubrique et facétieux. Mais il fait rire. Habile, divertissant, irrévérencieux, farceur, il attire à lui la sympathie populaire. Toujours en Occident, la figure du singe fascine comme un miroir de nous-mêmes. Mais le singe trop semblable nous inquiète. Sa ressemblance est un trait d'union avec une animalité que la chrétienté repousse avec force. Si l'on en croit les caricatures de Darwin en singe, ce dénigrement a pu jouer un rôle contre l'idée d'évolution biologique. Évidence scientifique qui fait pourtant de nous des singes descendus d'autres singes.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin, en compagnie de l'auteur de bande dessinée Riyad Satouf, à l'occasion de la sortie du tome 5 de l'Arabe du futur aux éditions Alary depuis hier. On peut désormais le commander en ligne ou mieux chez son libraire habituel en click and collect. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Les quatre premiers tomes de l'Arabe du futur se sont vendus à 2 millions d'exemplaires en France et ont été traduits en 28 langues. Après avoir raconté dans les précédents tomes votre enfance dans les années 80, enfance ballottée entre deux mondes, la Syrie de votre père et la bretelle de votre mère, eh ben Riyad Satouf vous évoquait dans ce présent tome votre adolescence dans la France de François Mitterrand et de Jacques Pradel, de 1992 à 1994, du collège au lycée. Comédie et drame comme d'habitude, NTM et Nirvana, les premiers émois amoureux et la peur de ne plus revoir Fadi. Le jeune frère retenu en Syrie par le père, ça c'était le drame révélé dans le précédent opus. D'ailleurs, Riyad Satouf, toute cette série tourne en fait autour de ce drame familial.
C'est vrai que voilà, ce volume c'est l'histoire d'une adolescence. Et les adolescents c'est un peuple, mais c'est vrai que c'est un peuple qui m'a toujours inspiré et autour duquel j'avais fait de nombreuses bandes dessinées, ainsi que mon premier film. Ce que j'aime beaucoup chez les adolescents, c'est que ce sont des créatures un petit peu fantastiques. Quand on est ado, on est mutant, on est perdu entre deux mondes, l'enfance qui se termine et l'âge adulte qui débute, et donc c'est une époque de grandes sensations, de grandes émotions. Alors on est immensément triste, immensément heureux, immensément extraverti ou immensément timide. Et c'est vrai que j'ai souvent abordé cet univers-là dans mes livres et j'étais content dans celui-là un petit peu de venger mes autres sujets en me vengeant un petit peu sur moi-même et en racontant mes propres années d'adolescence.
Mais c'est pas un récit d'apprentissage, Riyad Satouf, on revient. Il y a quand même un drame familial qui est au centre du dispositif. Je vous dis ça parce que j'ai appris en lisant d'ailleurs le bel album de Reporters sans frontières. Cette année, il est consacré à votre vie, à votre carrière. Et j'apprends que au tout début, quand vous vouliez raconter votre enfance, c'était pas du tout pour revenir sur ce drame. arabes, c'était parce qu'il y avait les révolutions arabes. Et vous dites qu'au début, l'arabe du futur devait être une bande dessinée de science-fiction sur le monde arabe. J'imaginais ce qui se passerait après les révolutions et comment les arabes allaient coloniser Mars. J'avais écrit tout un scénario. Et puis, la guerre en Syrie vous a rappelé ce trauma familial. Je ne sais pas si on peut utiliser d'ailleurs cette expression trauma familial pour raconter justement cette histoire qui est au centre de l'arabe du futur, Riyad Satouf.
Ben disons que je me suis lancé dans l'arabe du futur à un moment où j'avais du temps devant moi parce que mon second film avait été un échec au box-office. Alors j'avais fait deux films, je n'ai pas fait que des bandes dessinées. Donc suite à cet échec au cinéma, j'ai eu du temps devant moi et je me suis lancé dans ce projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Notamment lorsque la guerre en Syrie a commencé, j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait toujours à Homs, à côté de Homs, à venir se réfugier en France. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations. Et j'ai eu envie de raconter ce que c'était que d'essayer d'obtenir le droit à des étrangers de venir en France. On croit souvent que la France est un pays dans lequel on rentre comme dans un magasin, mais en fait c'est absolument pas le cas. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais pour que ces difficultés puissent avoir un intérêt pour un lecteur ou pour intéresser quelqu'un, il fallait que je raconte l'histoire depuis le début, et c'est ainsi que je me suis lancé dans l'arabe du futur.
Et donc là, dans ce cinquième tome, c'est les années collège, donc les premières lectures, les coups de cœur littéraires, mais aussi les premiers flirts. On va arriver
Ne divulgâche pas trop, ne divulgâche.
On peut parler de votre découverte de Lovecraft, par exemple.
Alors c'est vrai que moi souvent, on me demande parfois, si je me sens plutôt syrien ou plutôt français, etc. Et c'est vrai que l'adolescence est l'âge où je me suis rendu compte que j'avais besoin de me choisir ma propre identité nationale, et que cette identité-là, c'était le peuple des écrivains et des gens qui font des livres. Et c'est vrai que toutes les lectures que j'ai eues à l'adolescence m'ont beaucoup influencé sur la suite de ce que j'ai pu faire après. Et donc j'ai découvert des auteurs de bandes dessinées pour adultes qui faisaient des bandes dessinées de science-fiction comme Druillet, Moebius, Bilal que j'adorais. C'est aussi le moment.
Mais c'est très présent d'ailleurs dans l'arabe du futur.
Bien sûr, c'est le moment où j'ai découvert aussi Howard Philip Lovecraft dont je parle dans ce livre et qui a été très important parce que en tant que figure d'écrivain, moi ce qui m'intéressait aussi c'était les personnalités des écrivains, les personnalités des créateurs. Et alors Lovecraft, il est absolument génial parce que c'est un homme qui a fait une œuvre qui a influencé toute la culture populaire moderne. Et qui n'a jamais connu le début d'un succès. C'est-à-dire, il est mort dans la misère, seul, sans avoir jamais eu quasiment de rapport social. Il avait un physique assez particulier qui était un petit peu effrayant. Je me sentais très proche de ce personnage, de cet homme, qui avait quelque chose de rassurant parce qu'on se disait, on ne peut difficilement plus rater sa vie que lui, c'est-à-dire responsable d'une œuvre, mais de ne jamais voir qu'elle touche quiconque, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, il y a, comme dirait Lovecraft lui-même, il y a quelque chose d'innommable là-dedans. Et voilà, tout cet univers d'horreur, de surnaturel, de paranormal, c'est quelque chose que j'aborde dans ce livre.
Des autorismes. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans l'œuvre de Lovecraft alors que quand vous découvrez ses premiers livres, c'est-à-dire quand vous avez 14 ans, Riyad Satouf?
Alors un détail très très simple, c'est que lorsque je disais aux gens, alors là, souvent bon les personnes qui pouvaient s'intéresser un petit peu à moi ou mon histoire, la première chose qu'ils me demandaient c'est quoi ce prénom Riyad et Satouf, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, etc. On savait pas tout de suite que Riyad Satouf c'était un nom arabe.
D'autant plus que vous n'avez pas un physique de jeune arabe à cette époque-là. D'où le malentendu. Donc.
Et donc en fait voilà ça aurait très bien pu être un nom breton. Enfin je sais pas Riyadek. On peut imaginer que ça peut être un mot breton. Et donc alors quand je disais que j'étais syrien, autre chose, personne ne savait où était la Syrie. En fait c'est un pays qui était absolument inconnu à l'époque. Alors aujourd'hui je pense qu'il est plus connu avec le drame de la guerre, mais personne ne savait où le placer sur une carte. C'était inexistant. Donc un jour, j'ai des copains un petit peu plus intello et cultivés que les autres qui m'ont posé cette question. Je leur ai dit que j'étais syrien. Et là, tout de suite, ils ont fait référence à un personnage inventé par Howard Philip Lovecraft qui s'appelle Abdul Al-Hazad, qui est un écrivain mythique inventé par Lovecraft qui aurait écrit le Necronomicon, qui est un livre maudit. Et c'était un arabe dément qui a écrit le Necronomicon, donc à Damas. Et donc, il savait.
Enfin, un repère.
Voilà, il savait ce qu'était la Syrie, il savait. Et de savoir, de lire dans leurs yeux à quel point ils étaient impressionnés que je sois déjà allé à Damas, que j'ai vécu en Syrie, j'étais soudain nimbé d'une aura de mystère total. Et donc, je suis entré comme ça dans le monde des livres de grands à travers cette porte, la porte d'Abdul al-Azred.
Surtout, dans l'arabe du futur, on a aussi vos références musicales, ce qu'écoutait le jeune Riyad Satouf quand il avait 14 ans. Alors, plus pour vos références littéraires et bandes dessinées, je suppose qu'aujourd'hui vous assumez tout, parce que ce sont de bons choix. Et pour la musique, comment vous faites, Riyad Satouf ?
Non, j'assume absolument tout. Et l'univers de la culture adolescente, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais mon autre bande dessinée, Les Cahiers d'Esther, et souvent... La vraie Esther me fait passer les clips à la mode, les morceaux à la mode, etc. Et je me rends compte que la musique des ados, des jeunes, semble toujours complètement ringarde aux adultes avec le recul. Mais c'est aussi l'arabe du futur, l'histoire de comment on fait avec très peu de références culturelles pour s'en sortir et une sorte d'évasion par l'expression artistique. Et c'est quelque chose qui a été très important et dont je voulais témoigner dès le premier Arabe du Futur, puisque j'avais raconté l'irruption du dessin dans la vie. C'est toujours intéressant pour un jeune, je pense, qui lit ses livres, de savoir qu'il est toujours possible de s'émanciper de ses valeurs ou de ses origines sociales, familiales, culturelles, et que l'art est l'un des moyens les plus puissants pour le faire.
L'art et l'amour. Alors, il y a le personnage, ce premier flirt que vous racontez, Riyad Satouf. Ces amis qui vont vous proposer des lectures, ces professeurs qui vont vous pousser à continuer dans les dessins, est-ce qu'ils vont vraiment être décisifs dans votre choix de devenir un auteur de bande dessinée, ou est-ce que on est encore entre 92 et 94 dans les tâtonnements, je cherche ma voie?
Quand on est adolescent, c'est toujours compliqué de se dire qu'on va faire ci ou ça. Alors c'est un peu l'âge où on commence à demander l'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'art plastique qui avait remarqué que j'adorais le dessin, que j'aimais faire des... que c'était une matière où j'avais des très bonnes notes, etc. Elle m'a conseillé d'oublier toute autre idée professionnelle et d'essayer de faire du dessin. Mais c'était pas... elle l'a pas fait uniquement parce que c'était moi ou que j'étais particulièrement génial, parce que ce que je raconte aussi dans le livre, c'est qu'elle l'a fait également à d'autres élèves. Et je sais que cette prof, alors dans mon collège, il y avait Louise Bourgoin, l'actrice célèbre. Mmh. Alors, elle était plus jeune que moi, elle était en sixième, en cinquième. Louise m'a dit que cette prof d'art plastique lui avait conseillé d'être actrice. Donc, c'est drôle voilà, on croise des gens qui à un moment croient en vous et vous rendent les choses possibles dans votre tête. Mais ça peut être le rôle d'un professeur, ça peut être le rôle d'une rencontre, quelqu'un qui soudain vous voit. Comme vous ne vous étiez pas autorisé forcément à vous voir, et c'est important.
Comment raconter sa vie, le récit de sa jeunesse? On s'arrange comme on peut, on essaye de rester le plus fidèle possible aux souvenirs que l'on a, Riyad Satouf?
Alors je sais personnellement que quand j'écris l'Arabe du futur, quand j'ai commencé, je savais toutes les étapes par lesquelles j'allais passer, jusqu'à la fin de l'histoire. Ensuite, c'est vrai qu'on ne peut pas tout raconter, il faut quand même sélectionner des choses pour que ce soit intéressant pour le lecteur. Et donc j'avais, étant donné que l'Arabe du futur est quand même une bande dessinée que je fais vis-à-vis de moi-même et de mes souvenirs, au contraire, c'est-à-dire à chaque fois où j'ai pu avoir un petit blocage, par exemple, à me dire « Ah là, je ne sais pas comment faire pour aller là, est-ce que je raconte ça ?» etc. Au lieu d'inventer, je me suis réfugié au contraire dans des souvenirs qui pouvaient être... plus abstrait ou plus... Ça va être... C'est les moments où je m'attarde sur des odeurs, des goûts, etc. Je voulais toujours garder vraiment ce lien avec la mémoire et les véritables souvenirs, afin que cette histoire que j'avais dans la tête et que j'ai toujours eu du mal à partager avec les gens dans la vraie vie, je la transfère vraiment dans ces livres, d'une certaine façon. Et c'est aussi... Alors moi, personnellement, je suis complètement athée. Je n'ai... jamais cru en Dieu, et j'ai pourtant été extrêmement fasciné par le paranormal, l'occultisme, j'ai essayé de faire du spiritisme, etc. J'ai beaucoup lu sur tous ces sujets, je n'ai jamais assisté au début d'un phénomène paranormal, sauf une fois, je dirais, et le phénomène paranormal le plus étrange auquel j'ai jamais assisté, c'est ce qui s'est passé avec l'Arabe du futur, c'est que pendant 35 ans, cette histoire n'a intéressé personne, et qu'une fois que c'est devenu un livre, ça s'est mis à toucher des millions de gens, mais c'était très difficile à partager comme histoire. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui j'ai raconté toutes ces aventures et qui connaissent toutes les péripéties qu'il y a dans l'Arabe du futur, et à chaque fois qu'un Arabe du futur sort, ils le lisent et ils me disent « mais c'est incroyable, jamais j'aurais pensé que c'était ça, c'était... tu m'as raconté tout ce truc-là, mais je vois pas, c'est incroyable ». Et c'est drôle, de mon point de vue, il y a quelque chose d'un peu surnaturel dans ce rapport au public et à l'autre par l'histoire. Et ça fait plaisir parce que j'aime tellement la bande dessinée que je crois que la bande dessinée est une sorte de super pouvoir.
Pour parler de la bande dessinée, Riyad Satouf, on voit bien entre les premiers tomes et ce tome très important, le numéro 5, vous êtes passé, que l'enfance pour vous, c'est, pour aller très vite, c'est Tintin, et que vous allez passer à l'âge adulte, enfin cette transition, cette adolescence, en passant par l'amour, les premiers émois amoureux, et en découvrant la bande dessinée adulte, c'est-à-dire Druet, Moebius, Anki Bilal. Ça tombe bien aussi.
Ben c'est comme ça. Je pense que quand on est adolescent, on quitte le monde des bébés. On a envie de lire des trucs d'adultes, on a envie de lire des bandes dessinées de grands. À l'époque, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de manga, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'avais été ado, j'aurais fait partie de ces jeunes qui sont dans les FNAC et dans les librairies, qui sont assis près dans le rayon ado, vous savez, après les cours, et qui lisent les albums parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se les offrir. Et donc voilà, moi, à mon époque, dans les années 90, le top du top, c'était Moebius, Bilal, Druet, c'était les anciens de Métal Hurlant, et c'était des références majeures. Et ils m'ont appris l'importance de l'inconscient dans la bande dessinée. C'est-à-dire, que ce soit Moebius ou Druet, ils étaient d'une grande liberté. Là où Hergé était extrêmement rigide, alors il était très libre dans le fond de son histoire, parce que Tintin, c'est une sorte de théâtre psychanalytique, mais dans la forme... Moebius qui faisait ses histoires surréalistes, sans queue ni tête, apparentes. Druet qui a été le premier auteur à détruire le bord des cases et à faire des pages où il construisait des ponts entre les étoiles, etc. Quand on est adolescent et un peu renfermé sur soi, ce sont des images qui vous poursuivent et vous influencent.
On peut dire, sans dévoiler toutes les histoires de l'Arabe du futur 5, que ça se passe quand même à Rennes. Et pourtant, du début jusqu'à la fin, le personnage de Riyad, qui a donc 14 ans, est travaillé par tout ce qu'il a vécu en Syrie. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est jugé, ou il imagine qu'il est jugé par ses cousins, par sa famille restée en Syrie.
Oui, bien sûr. Lorsque j'habitais dans ce petit village près de Homs, la vie était extrêmement prude là-bas. Je suis sûr que vous-même, tout fait que vous êtes poursuivi par des choses de votre éducation, pas forcément qui ont un rapport avec ces gens, mais si vous avez grandi dans une famille très libre, vous serez forcément plus différent. Enfin, vous serez différent face à une société très libre. Si vous avez grandi dans un japonais qui a grandi dans la tradition japonaise à Paris, comment il va interpréter le monde avec un regard japonais? Et c'est vrai que cette dualité de pensée, moi, a toujours été présente, surtout à l'adolescence, qui est un moment où on se rend compte que, voilà, je passe d'un petit village où les hommes et les femmes n'ont aucun rapport sentimental entre eux, c'est interdit par l'ordre social. Et que si on veut connaître une fille quand on est un garçon, on doit l'épouser, et ça arrive à tel moment, à une société comme la société française ou à Rennes, où les adolescents sont livrés à eux-mêmes, 50 adolescents dans une maison où ils font ce qu'ils veulent, ils s'embrassent, comment lire une telle situation? Comment vous adapter comme ça? C'était intéressant pour moi d'illustrer ça.
Vous arrive-t-il encore aujourd'hui d'imaginer ce qu'aurait été votre vie, Riyad Satouf, si votre mère avait fait le choix de rester ou de revenir en Syrie?
Jamais, mais j'imagine plutôt si quelle aurait été ma vie si j'avais eu un physique à la Arnold Schwarzenegger, par exemple. On peut toujours imaginer des si. J'évite d'y penser parce qu'en fait, je suis très satisfait de la vie que j'ai eue et que j'ai, et notamment surtout parce que je suis assez fidèle, je crois, à l'adolescent que j'étais. Je pense qu'il serait content de voir que je fais les livres comme je les fais.
Et quel regard vous portez sur votre enfance, par exemple? Il y a toutes ces scènes qui, aujourd'hui, ont une autre interprétation. Ces scènes où vous vouliez plutôt ressembler à Kurt Cobain plutôt qu'aux rappeurs d'NTM. Parce que les rappeurs d'NTM, avec leurs habits, avec leurs jogging, avec leurs baskets, vous renvoyez l'image de ces voyous qui vous ont bien ennuyé, c'est le moins que l'on puisse dire, pour rester chaste pendant votre enfance.
De toute façon, moi, c'est vrai que dans cette bande dessinée, je raconte les choses comme je les ai vécues. J'évite d'intellectualiser les choses. C'est vrai que l'Arabe du futur, c'est une bande dessinée que je réalise. Je laisse une grande part d'improvisation, justement parce que je m'appuie sur des souvenirs. Et donc, je me dis tout le temps, si ça s'est passé, c'est bien de le raconter. En fait, ça va. J'ai besoin de le raconter. Je vais pas commencer à orienter idéologiquement telle ou telle chose. Moi, je trouve ça très drôle que j'aurais adoré ressembler à Kurt Cobain. Quand j'étais dans le premier tome de l'Arabe du futur, j'étais une sorte de petit Kurt Cobain. J'avais des grands cheveux blonds.
Rejet d'NTM, est-ce que c'est un rejet de votre autre culture parce qu'elle était oppressante, parce qu'elle renvoyait à ce drame familial, à ce père, à ce pays?
Non, mais vous avez pas bien lu la bande dessinée, Toufik. Il y a aucun rejet d'NTM. C'était absolument pas. C'était simplement que c'était la musique qu'écoutait la fille dont j'étais amoureux, et que en effet ces types me faisaient assez peur avec leur virilité extrêmement exacerbée, et qui était une virilité, je pense, que j'aurais aimé posséder et que je ne pouvais pas, parce que moi, quand je parlais, on me prenait pour une fille. Quand je marchais dans la rue, j'étais voûté. Donc je crois pas. Moi, je pense qu'il y a plus quelque chose de l'ordre de l'auto-préservation. C'est au bout d'un moment. On n'interprète pas, et quand on est faible, on s'enfuit.
Et puis enfin, je voulais le signaler, puisque c'est déjà la fin de cet entretien, Riyad Satouf, le numéro de Reporters sans frontières, cette année, il est consacré à votre vie, à votre œuvre. Il y a un texte, une lettre de Philippe Druyer. Waouh! C'est ça la consécration. Un texte de Leïla Slimani, un témoignage de Vincent Lacoste, pour qui vous êtes un oncle, un vieil oncle sage. Et puis surtout, il y a des dessins, des documents, et on se rend compte que vos dessins de jeunesse marquent déjà le style Riyad Satouf.
Peut-être, oui, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'avoir un regard là-dessus. J'évite de trop regarder ce que je faisais avant. L'Arabe du futur et raconter ces péripéties-là, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps.
Grand succès.
Il s'est trouvé à un moment que les coïncidences et le bon moment est arrivé dans la vie pour le faire.
C'est un grand succès, traduit en plusieurs langues, sauf en arabe. Ça vous pose un problème, Riyad Satouf, que l'Arabe du futur ne soit pas encore traduit en arabe?
Non, absolument pas. C'est une question qu'on me pose très souvent. Mais la raison est assez simple et moins peut-être excitante que celle qu'on voudrait bien avoir. C'est que l'Arabe du futur, la langue arabe, il y a très peu d'éditeurs en langue arabe. Le marché du livre est minuscule. La langue arabe, il y a très peu de livres traduits en arabe. Et que les rares éditeurs qui étaient intéressés par faire l'Arabe du futur en langue arabe, il y en a eu. On a échangé. Ils ne voulaient s'engager que sur le tome 1 de l'Arabe du futur. Et de dire, si ça marche, peut-être on fait le 2. Or, moi, je ne pouvais pas prendre le risque que l'Arabe du futur n'y ait que le tome 1 dans la langue arabe, parce que c'est l'histoire jusqu'au 6. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que lorsque la bande dessinée sera terminée, je la proposerai à la langue arabe. Et il y a plusieurs langues comme ça, il y a également l'hébreu, on me l'a proposé, je ne veux pas prendre le risque qu'il n'y ait que le tome 1. Et l'anglais, c'était pareil, mais la langue anglaise, ils se sont engagés à tout faire.
Et le tome 6 et la fin de cette saga, c'est l'année prochaine, Riyad Satouf?
J'espère qu'on ne sera pas dans la 16e vague de coronavirus, mais sans doute l'année prochaine, oui.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
L'Arabe du futur, le top 5, est sorti hier, enfin est à votre disposition depuis hier, c'est édité chez Alary Édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Riyad Satouf.
Merci Toufik.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, à distance bien sûr, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Jean-Louis Delon. Bon vendredi, bon week-end, on se retrouve lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tout va si vite.
Sur France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent? Plus que jamais, écoutons les meilleurs experts en France et ailleurs.
La politique extérieure américaine vis-à-vis de l'Europe, la Chine et la Russie, ce samedi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Schubert et Rosemary Stanley, c'est une longue histoire d'amour. Au conservatoire, la chanteuse franco-américaine du groupe folk Moriarty est tombée sous le charme du romantique des romantiques. Schubert, c'est dans ses cordes. Les lieder, descendants des airs populaires allemands, sont au diapason du timbre sans chichi de Rosemary. Schubert in Love, dans les matins du samedi de Chloé Cambrelin, de 7h à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une deuxième vague brutale et une lassitude qu'il faut combattre. Le gouvernement a appelé hier les Français à surmonter l'amertume du deuxième confinement, rappelant les chiffres toujours plus alarmants de l'épidémie de Covid-19, verbatim de la conférence de presse d'hier soir dès le début de ce journal. Nous rejoindrons ensuite notre envoyé spécial au Nevada, à Las Vegas, où le dépouillement n'est pas terminé pour la présidentielle aux États-Unis. Même chose en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona. Statu quo donc toujours. Mais Donald Trump s'impatiente face à Joe Biden. Cette nuit, le président sortant s'est attribué la victoire, dénonçant des fraudes sans en apporter la preuve. Emmanuel Macron double les forces aux frontières et plaide pour refonder l'espace Schengen. Il était hier auprès des forces de l'ordre au Pertus, près de l'Espagne, vous l'entendrez. Et puis, retour sur la dernière audience du procès de Sid Ahmed Glam, condamné hier à la perpétuité pour meurtre et pour avoir préparé un attentat avorté. Une audience avec, étrangement, beaucoup d'humanité. La deuxième vague est brutale, le SARS-CoV-2 se propage rapidement. Propos du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, hier soir, lors d'un point presse consacré à la crise sanitaire en France. À ses côtés, le ministre de la Santé, Olivier Véran. La situation épidémique continue de se dégrader et, selon Jérôme Salomon, la France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas de contamination. Tara Schlegel, vous avez suivi pour nous cette conférence de presse.
La vague est très haute, très forte, ont dit le ministre Olivier Véran et son directeur général, qui précise que la vitesse du virus n'a pas vraiment ralenti. Prenons un R qui serait à 1,3, dit Jérôme Salomon, et on double pratiquement le nombre de transmissions tous les 15 jours. Or, 20% des 2 millions de tests qu'on fait chaque semaine en France sont positifs. Ça fait plus de 58 000 cas avérés détectés hier. 447 personnes admises en réanimation sur les dernières 24 heures et un patient sur quatre ne survivra pas à son passage en réanimation, dit Jérôme Salomon. La situation se détériore chaque jour. Sur un ton un peu moins dramatique, il faut le dire, mais en insistant sur le travail de transparence du gouvernement, Olivier Véran a ensuite détaillé comment 85% de nos capacités actuelles de réanimation sont occupées. 4000 patients Covid plus 3000 malades d'autre chose égale 85%, sachant qu'on a déjà sensiblement augmenté ses capacités de réa, puisqu'avant la crise, je le rappelle, il n'y avait en France que 5000 lits de réanimation. Mais les personnels sont là, dévoués, insiste le ministre. 12 000 professionnels qui sont volontaires pour venir en renfort dans les hôpitaux, dans les EHPAD. EHPAD qui sont cette fois-ci particulièrement frappés. 15% des maisons de retraite ont déclaré des cas Covid, souligne le ministre de la Santé. Et c'est sans commune mesure avec la première vague. C'est sans doute ce qui rendra cette deuxième particulièrement meurtrière.
Olivier Véran qui n'a pas annoncé de nouvelles mesures de restriction hier, mais il appelle les Français à l'autodiscipline. À Paris, les activités de livraison et de vente à emporter sont désormais interdites à partir de 22h tous les soirs. J'ajoute ce changement dans le protocole sanitaire dans les lycées. Des cours pour moitié à distance à partir de la semaine prochaine. 50% des cours resteraient en présentiel pour assurer, dit Jean-Michel Blanquer, la continuité pédagogique. Le ministre de l'Éducation nationale recule en cela face aux protestations des élèves et des enseignants depuis la rentrée de la Toussaint face à ce protocole. Nouvelle formule également pour le baccalauréat cette année. Les épreuves d'évaluation commune sont remplacées par du contrôle continu. À la une de l'actualité ce matin, toujours la présidentielle aux États-Unis. Un jour sans fin, pourrait-on dire, car les résultats finaux se font toujours attendre. Le démocrate Joe Biden patiente encore avant une victoire qu'il croit acquise, alors que Donald Trump, lui, crie à la victoire et en même temps à la fraude. Discours particulièrement fou cette nuit du président sortant, isolé dans son propre camp républicain, affolé peut-être par les résultats toujours serrés. Son adversaire Joe Biden court toujours en tête pour le moment avec sur les 270 grands électeurs nécessaires déjà 253 voire 264 pour Joe Biden. Certains médias comptent ou non l'Arizona. Donald Trump, lui, comptabilise 214 grands électeurs pour le moment. Parmi les États où le dépouillement n'est toujours pas fini ce matin, il y a le Nevada où vous vous trouvez, Valentin Dunat. Des manifestants se mobilisent pour soutenir Donald Trump.
Plusieurs centaines de personnes sont en ce moment devant ce centre de dépouillement à Las Vegas. Tous portent des drapeaux américains ou à l'effigie de Donald Trump. Parmi eux, des Proud Boys, un groupuscule d'extrême droite. La présence policière est donc très importante. Une manière pour ces républicains de contester d'ores et déjà l'élection qu'ils considèrent comme leur président truqué. C'est le cas de Craig.
Nous sommes ici devant le centre de dépouillement. Les gens ici veulent que chaque vote légal compte. Pas tous ceux qu'ils ont enlevés ou qui sont illégaux, mais nous voulons que chaque vote légal compte. Et je crois que le gouvernement est en train de voler l'élection.
Peut-être ce soir Joe Biden sera le président des États-Unis. Vous en pensez quoi?
S'il est élu légitimement, nous l'accepterons, mais nous voulons que ce soit légitime.
Et je fais confiance
au président de faire en sorte que si Joe Biden est le président, c'est légal et que ça ne nous a pas été volé ici au Nevada. Je fais confiance au président.
Stolen from us here in Nevada. And I trust the president will make sure that that happens.
Ici au Nevada, il reste 200 000 bulletins à dépouiller. 90% de ces bulletins viennent de Las Vegas, donc favorables aux démocrates. Et ce, alors que Joe Biden a déjà plus de 11 000 voix d'avance. Sauf que les autorités mettent un temps fou à faire le décompte et à les publier. Et selon les journalistes locaux, les autorités républicaines ont tout intérêt à ne pas sceller le sort de Donald Trump.
Merci Valentin Dunat en direct de Las Vegas. Pour tout comprendre par ailleurs sur les recours possibles de Donald Trump, rendez-vous sur notre site franceculture.fr et puis sur le prochain journal, dans le prochain journal de 7h sur France Culture. Pour l'instant, il est 6h36. Sachez qu'Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de sécurité déployées aux frontières de la France. Il veut lutter en cela contre la menace terroriste, les trafics et l'immigration illégale. Emmanuel Macron plaide également pour un renforcement de la coopération à l'échelle européenne. Et il cite en exemple ce qui se fait déjà avec l'Espagne à la frontière du Pertus, où justement le président a effectué hier un déplacement. Sébastien Berriot y était et nous raconte.
Emmanuel Macron a pris le temps de discuter avec les fonctionnaires de la Policia Nationale venus l'accueillir à la frontière du Pertus. Le fonctionnement chez nos voisins espagnols est différent. C'est un corps de police basé à Madrid qui se déplace sur les points frontières en fonction des besoins. Javier Hidalgo fait partie de cette brigade et il vient régulièrement au Pertus.
Je crois que c'est important que le président de la France voit le travail qu'on fait, qu'on est ensemble, la police nationale avec la police française.
Échange d'informations, renseignements sur les passages clandestins, la coopération franco-espagnole est présentée comme exemplaire. Le commandant Yannick Garden, porte-parole de la police aux frontières à Perpignan.
C'est vraiment un bonheur de travailler avec eux, c'est des vrais partenaires qui tous les jours opèrent avec nous. On réalise d'ailleurs plusieurs fois par semaine des patrouilles communes entre le Corps national des policiers et les policiers de la police aux frontières. Vraiment, on travaille en synergie totale.
Un travail salué par Emmanuel Macron qui a tenu à visiter le centre de coopération franco-espagnol installé au Pertus. 24 fonctionnaires y sont installés en permanence. Cette collaboration a permis d'interpeller 11 000 personnes depuis le début de l'année à la frontière du Pertus, dont une trentaine de fichiers S.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon pour France Culture. C'est pour évoquer la lutte contre le terrorisme. Sachez-le par ailleurs que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera aujourd'hui en Tunisie. Il a assassiné Aurélie Châtelain en avril 2015. Il avait imaginé un attentat contre l'église de Villejuif. Sid Ahmed Glam a été condamné hier à de la réclusion à perpétuité. Les autres accusés sont tous déclarés coupables également, avec des peines qui commencent à 5 ans avec sursis. Une audience dont, paradoxalement, il est ressorti beaucoup d'humanité, Charlotte Piret.
C'est le genre de scène que l'on voit rarement dans une cour d'assises. Peu après l'énoncé du verdict, le père d'Aurélie Châtelain est allé souhaiter bon courage à l'un des accusés, s'étant qui de vérifier que la peine d'un autre qui comparaissait libre ne le renverrait pas en prison. Car ces 5 semaines d'audience ont aussi permis ça, l'émergence de grands moments d'humanité, comme le raconte la famille d'Aurélie Châtelain.
Dans le box, il y a quand même beaucoup d'humanité. Sauf chez Glam, bien sûr, il n'y a rien, c'est vide. Mais malgré tout, ça reste des êtres humains. Et voilà, donc on le ressent, ils se sont excusés. Sincèrement, ça se sent.
Oui, il y a des liens qui se sont tissés parce qu'il y avait quand même de l'humanité chez certains.
Des liens salués par maître Xavier Nogueras, avocat de la Défense, dont le client a fait un malaise à l'énoncé de sa peine et qui s'est vu réconforté par les parties civiles, là encore.
C'est des moments d'humanité qui ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de cette audience. C'est quand même des beaux moments. Et je crois que c'est un peu lié à la tenue d'audience par la présidente qui a été remarquable. Voilà. Elle a fait une audience incroyable. Chacun a pu s'exprimer librement, s'amender éventuellement pour certains.
Au-delà toutefois de ces moments d'audience, les peines prononcées hier sont lourdes, allant de 5 ans de prison avec sursis à la réclusion à la perpétuité pour le principal accusé, Sid Ahmed Glam.
C'était Charlotte Piret. Le temps de ce vendredi, grosso modo le même qu'hier, avec un beau soleil et des températures fraîches, 4 degrés à Lille, 5 à Paris, 16 degrés à Nice ce matin. À 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Une polémique agite le monde universitaire suite aux propos du ministre de l'Éducation nationale, propos sur les ravages de l'islamo-gauchisme à l'université, Jacques.
Oui Clara, c'était quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty sur Europe 1, puis au Sénat, le ministre s'en prenait à une idéologie qui mène au pire, le communautarisme, prétendant que l'assassin avait été conditionné par des gens qui encouragent cette radicalité intellectuelle et dénonçant, je cite, « des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur ». À la suite de quoi, dans une tribune au Monde, des professeurs et des chercheurs lui avaient emboîté le pas en dénonçant à leur tour les frilosités de leurs collègues sur l'islamisme et les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales. Parmi les signataires, Laurent Bouvet, Marcel Gauchet, Nathalie Heinisch, Gilles Kepel ou Pierre Nora. Les idéologies indigénistes, racialistes et décoloniales, transférées des campus nord-américains, sont bien présentes à l'université, affirmait-il, nourrissant une haine des Blancs et de la France et un militantisme parfois violent qui s'en prend à ceux qui osent encore braver la doxa anti-occidentale et le prêchi-prêcha multiculturaliste. Ouria Boutelja a ainsi pu se féliciter que son parti décolonial rayonne dans toutes les universités et les signataires de condamner pêle-mêle l'importation des idéologies communautaristes anglo-saxonnes, le conformisme intellectuel, la peur et le politiquement correct. Aujourd'hui, dans les pages idées de Libération, 2 universitaires leur répondent, Alain Policard, chercheur associé au CEPOF, et Alain Renaud, philosophe, profondément attaché aux principes de la République et en l'espèce à la liberté de conscience et d'expression. C'est au nom de celle-ci qu'il se propose de dénoncer les approximations de leurs collègues. Il rappelle d'abord le communiqué de la Conférence des présidents d'université, instance que l'on ne peut soupçonner d'un quelconque gauchisme, selon lequel la recherche n'est pas responsable des maux de la société, elle les analyse. Concernant l'indigénisme, sa principale incarnation, le Parti des indigènes de la République, a totalement échoué dans sa volonté d'être audible dans nos enceintes universitaires, souligne-t-il. Chacun sait bien que l'écho des thèses racistes, antisémites et homophobes de Ouria Boutelja est voisin de zéro. Quant au décolonialisme auquel l'indigénisme se réfère, mais qui recouvre quantité d'autres thématiques, il représente bien un corpus structuré dont l'influence à l'université reste marginale en France. Et sur le soi-disant prêchi-prêcha multiculturaliste, l'expression dénote un mépris, voire une méconnaissance de ce courant intellectuel qui propose une alternative à notre conception de l'intégration, laquelle cherche à assimiler pour égaliser. Je cite « restituer à l'égal sa différence, tel est le projet du multiculturalisme, destiné en définitive à aller plus loin dans l'instauration de l'égalité que n'était parvenue à le faire la solution républicaine classique. Alain Renaud y voit par ailleurs une contribution à la décolonisation des identités, étudiée dans l'un de ses livres, « Un humanisme de la diversité », ainsi qu'une forme de conciliation que les crimes de la colonisation avaient rendue extrêmement difficile. Que ce soit à l'université ou plus largement dans l'espace public, nous devons choisir le débat plutôt que l'invective, conclut Alain Policard et Alain Renaud. Dans une autre tribune du Monde, Édouard Mel, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, signale des amendements problématiques au projet de loi sur la recherche, qui n'en avait pas vraiment besoin tant il est contesté par les chercheurs. Il s'agit, dans le contexte de l'émotion suscitée par les crimes terroristes, d'une clause stipulant que l'exercice des libertés académiques et donc des activités d'enseignement et de recherche doit se faire dans le respect des valeurs de la République. L'universitaire y voit la marque d'une défiance à l'égard de l'institution, se demande quelle sera l'instance chargée de vérifier cette conformité et sur quels critères exactement. Il relève un train pouvant en cacher un autre, un deuxième amendement qui mettrait fin au recrutement des professeurs par le CNU, le Conseil National des Universités, instance scientifiquement compétente et démocratiquement élue par la communauté universitaire. À sa place, le Haut Commissariat pour l'évaluation de l'enseignement et de la recherche, dont les délégués et le président sont nommés par le ministère, ce qui reviendrait à placer les universités et les orientations de la recherche sous contrôle politique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacombe, bonjour.
Bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Au sommaire des enjeux, donc aujourd'hui, la guerre civile menace en Éthiopie.
Oui, la rédaction continue à couvrir parfaitement les élections américaines. Alors dans les enjeux internationaux, on attend encore un peu pour en tirer quelques enseignements le jour même de l'élection, comme s'il savait que celle qu'on appelle la communauté internationale serait accaparée par le décompte des voix aux États-Unis. Le premier ministre éthiopien a lancé une offensive militaire dans la région de Tigré, à l'extrême nord du pays, à la frontière avec l'Érythrée. C'est pourtant à lui, à Abiy Ahmed, que cette même communauté internationale avait remis l'année dernière le prix Nobel de la paix pour avoir réconcilié l'Éthiopie avec l'Érythrée. Bonjour Éloi Fiquet.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue et historien, maître de conférence à l'EHESS, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Éloi Fiquet, qu'est-ce qu'on sait déjà d'un point de vue militaire, stratégique, de ce qui est en train de se passer dans cette région de Tigré ?
Du point de vue du gouvernement fédéral, c'est une opération de rétablissement de l'autorité dans une région déclarée dissidente et qui aurait voulu s'emparer de garnisons de l'armée fédérale. C'est le motif de déclenchement de cette opération de maintien de l'ordre. Et du point de vue de la région concernée, le Tigray, au nord du pays, le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed est illégitime depuis qu'il a repoussé à deux reprises les élections générales qui auraient dû se tenir en mai 2020, puis repoussées en août et puis à nouveau repoussées sine die pour des raisons d'épidémie de Covid, mais aussi de déséquilibre de la scène politique intérieure. Et en fait, le Front de libération tigréen, qui tient la région du Tigray, a tenu en septembre, début septembre, ses propres élections générales. Du coup, ce qui a créé une sorte de grand déséquilibre politique intérieur entre une région qui a suivi le calendrier électoral original et le reste du pays sans élections. Et donc, le gouvernement a été déclaré par le Tigray comme inconstitutionnel.
C'est-à-dire, a déclenché cette offensive. Est-ce que ça veut dire que le Premier ministre Abiy Ahmed n'avait pas d'autre choix pour affirmer sa légitimité, le prix Nobel de la paix n'avait pas d'autre choix que d'aller vers la guerre, ou est-ce qu'il y a eu une médiation préalable?
Ben, en fait, depuis plusieurs mois, mais particulièrement là, depuis les élections au Tigray en septembre dernier, il y a eu une série de tensions verbales très forte, de menaces de paralysie institutionnelle de part et d'autre. Le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed menaçait le Tigray de ne pas lui verser le budget. Il y a eu proposition de changement du commandement de l'armée du Nord et la région du Tigray a renvoyé le général qui était envoyé. Donc vraiment des tensions, des menaces de part et d'autre et très peu de terrain de médiation en fait.
Et d'ailleurs, à tel point que le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence pour 6 mois dans cette région, a ordonné aux opérateurs nationaux que l'électricité, le téléphone et Internet soient coupés. C'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'il advient aujourd'hui de ces 4 millions.
C'est fréquente de couper Internet dès qu'il y a la moindre tension. Oui.
En Éthiopie, d'accord. Donc c'est une région de 4 millions d'habitants. Peut-être un dernier mot sur cette région avant d'élargir le spectre du récit de cette histoire. Mais quel est le rapport de force aujourd'hui? Est-ce que les Tigréens font le poids face à l'armée éthiopienne?
C'est tout l'enjeu de ce conflit qui vient d'être déclenché, c'est de savoir en fait quel est le rapport de force. Et après, des rapports de force au niveau politique et au niveau de la communication, c'est maintenant l'évaluation d'un rapport de force sur le terrain militaire. Le Tigray apparaît comme une minorité d'un point de vue démographique.
6% de la population, je crois,
c'est ça, donc sur environ 100, plus de 100 millions d'Éthiopiens. Donc c'est un territoire assez aride dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie. Par rapport aux autres grandes populations éthiopiennes, les Oromo, Amara, sont environ chacun 30 millions. Donc vous voyez que le rapport de force peut apparaître déséquilibré, mais le Tigray, d'une part, est une région de tradition militaire, de tradition rebelle très forte, et puis par ailleurs, c'est dans cette région qu'étaient stationnées de nombreuses garnisons aux frontières de l'Érythrée, et tout l'enjeu est dans le contrôle de ces divisions militaires basées au nord, lesquelles vont rester loyales au Tigray parce qu'elles étaient dirigées par des officiers tigréens, lesquelles seront loyales au gouvernement fédéral, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui.
Voilà, les Tigréens ont une longue expérience de la lutte parce que déjà dans les années 70-80, ils se battaient contre le pouvoir central. Il faut à ce stade expliquer que 3 communautés principalement se disputent le pouvoir en Éthiopie, donc les Amara, les Oromo et les Tigréens. Tous ont déjà exercé le pouvoir dans des périodes plus ou moins lointaines. Les Amara pendant très longtemps jusqu'au début des années 90, puis les Tigréens pendant une trentaine d'années jusqu'à la nomination en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed qui est un Oromo, donc la communauté la plus nombreuse du pays. Est-ce qu'il faut lire Éloi Fiquet cette offensive comme un nouveau pas dans un processus de décomposition communautaire qui fait dire aujourd'hui à certains que l'Éthiopie ressemble à bien des égards à la Yougoslavie la veille de son éclatement?
De décomposition ou de recomposition communautaire. Ce qui a fait tenir l'Éthiopie comme fédération depuis sa constitution entre les années 1991-95 après la chute de la dictature communiste de Mengistu Haïlé Mariam, c'est une constitution qui autorisait chaque peuple à pouvoir faire sécession. Donc, encourager chaque peuple à tenir ensemble plutôt que de se diviser. Et donc là, on est dans un nouvel épisode de reconfiguration des équilibres, des rapports de force, avec un parti tigréen qui avait été l'architecte de la Constitution fédérale, qui se considère comme le gardien du temple de cette Constitution, qui milite pour un fédéralisme au sens strict, avec une forte autonomie de chaque région. Assez paradoxalement, après avoir tenu le pouvoir sous l'autorité de Meles Zenawi, de façon très centralisée. Et aujourd'hui, il est reproché à Abiy Ahmed de vouloir tenir une unité nationale de façon assez coordonnée, centralisée depuis le centre. Voilà, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Alors, on peut pas encore parler d'explosion, de séparation de chaque région, mais c'est vrai que ce conflit assez nouveau va poser la question du rééquilibrage des rapports de force et du jusqu'à quel point certaines régions voudront s'autonomiser du jeu national.
Et le Premier ministre éthiopien qui a tant voulu faire la paix avec l'Érythrée, est-ce qu'il l'a préparé la paix aussi dans son propre pays? Et est-ce que le comité du prix Nobel de la paix est allé un peu vite en besogne en le désignant comme lauréat l'année dernière?
C'est deux questions différentes. D'une part, le prix Nobel de la paix s'est immiscé dans un jeu politique national à quelques mois d'élections qui, tout compte fait, ne se sont pas tenues.
Pour de bonnes raisons ou pas, d'ailleurs, le coronavirus a vraiment affecté la population éthiopienne au point où il fallait annuler les élections?
Assez peu, en fait. C'est une menace avec beaucoup d'incertitudes. Donc c'est sûr qu'entre un climat d'incertitude épidémique avec un dirigeant de l'OMS qui est lui-même éthiopien, et puis par ailleurs une situation politique très très instable. Les élections ont été repoussées, mais ont créé cette paralysie institutionnelle. Ensuite, Abiy Ahmed, dans son discours, dans sa communication, a voulu réconcilier le peuple éthiopien. C'était son mot d'ordre, « me demeure en langue amharique », une façon d'agréger la nation, de la recomposer, de la réconcilier. Abiy Ahmed est un très bon communicant, mais il est vrai que la réorganisation de la scène politique intérieure, avec la réintégration de forces politiques qui avaient été exclues sous le régime précédent tenu par le Front de Libération Tigréen, cette réincorporation prend du temps. Ça nécessite la création d'une nouvelle culture politique, de nouveaux équilibres. Et hélas, ces nouveaux équilibres n'ont pas pu se dessiner sur le plan du programme politique. Ça n'a pas pu être arbitré par une élection. Et on voit que malheureusement, ça se joue sur sur les terrains militaires, à travers à la fois un conflit impliquant l'armée fédérale, mais aussi une multitude de petits conflits impliquant des milices locales.
Merci beaucoup, Éloi Fika. Nous n'aurons pas eu le temps d'aborder la question de la présence de la Chine très importante en Éthiopie et éventuellement de la question de savoir si les investissements massifs chinois en Éthiopie sont de nature aussi peut-être à modifier ou altérer le jeu politique éthiopien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes anthropologue et historien, maître de conférence à l'EHESS. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Quand on dit « à présent », c'est comme si on posait deux questions.
À présent, Frédéric Worms.
Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui définit vraiment notre présent? Ce qui nous arrive? Notre moment commun, historique, politique, vital? Mais c'est aussi comme si nous demandions « qu'allons-nous faire ? » Qu'allons-nous faire pour y répondre? Comment allons-nous partager ce présent? Quelle est notre action pour répondre à ces dangers? C'est notre responsabilité.
À présent, par Frédéric Worms, le vendredi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes.
Sur France Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
Il pose d'autres questions, et quand il pose les mêmes, il les pose différemment.
L'état d'urgence contre le terrorisme ou la Covid est-il un signe d'impuissance? Jusqu'où peut-il contraindre les libertés individuelles? Signe des temps, par Marc Wetzmann, avec Marie Goupy, directrice de programme au Collège international de philosophie, ce dimanche à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez à 6h57 et bonjour à vous Guillaume Herrière.
Et bonjour Julie Gacot, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour Guillaume, optimisation fiscale pour Amazon, optimisation postale pour les libraires?
Ben oui, vous savez, le ministère de la Culture a annoncé hier avec fracas rendre en substance l'envoi des livres par les libraires gratuits. C'était une revendication des libraires pour tenter de rétablir l'égalité de conditions entre Amazon et eux. Je vous rappelle que votre libraire ne fait pas d'optimisation fiscale. Amazon, oui. D'où, et c'est là où les choses sont un peu compliquées, d'où ce communiqué triomphateur hier. Je le cite, Julie. Le gouvernement met en place la prise en charge des frais d'expédition de livres des librairies indépendantes pour favoriser la vente à distance. Exactement le genre de communiqué, vous savez, dont on ne lit que le titre. Le gouvernement prend en charge. A priori, on peut se dire que c'est gratuit, mais gratuit, c'est 0 euros. Ouais, mais en fait, non, parce que ce serait trop simple. Prends en charge, on veut la PUC bureaucratique, ça n'est pas l'exact synonyme de gratuit. En fait, les libraires vont payer les frais d'expédition des livres, ils iront à la poste, hein, et puis là, ils vont garder, vous savez, les petites facturettes, Julie, vous savez, celles que d'ordinaire vous perdez immédiatement. Et puis là, ensuite, les 10 libraires vont collationner ces petites facturettes, et puis ils vont demander une demande de remboursement à l'ASP. Vous savez pas ce que c'est l'ASP? Ben, vous allez connaître, c'est l'Agence de Services et de Paiement. Laquelle agence les remboursera? Alors, les rembourseront un jour, parce qu'évidemment, on sait que les libraires n'ont pas exactement la même trésorerie qu'Amazon, d'où l'autre mesure du dispositif. Jusqu'ici, c'était trop simple. La Poste va mettre en place, je cite toujours le communiqué, une offre Proxy Course Librairie. Et figurez-vous que Proxy Course Librairie, votre nouvel ami donc, sera disponible au tarif de 2 euros au lieu de 4,50 euros. Alors, je traduis toujours le Volapük pour les libraires. Le timbre à 4,50 euros sera vendu 2 euros. Évidemment, rendre ce timbre gratuit pour les libraires, c'était impossible, c'était trop simple. Et c'est là où la situation dans les librairies renvoie à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, ce pays que la présidentielle rend marteau, parce que vous savez comment on dit devenir dingue, particulièrement dingue dans un milieu professionnel timbré en argot américain, going postal. Going postal, nos libraires vont apprécier.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.